Grande B, DPJ, quand on met ces deux mots-là un à côté de l'autre, ça sonne probablement des cloches très, très tristes. On pense à la fillette de Grande B qui avait été sous la tutelle de la DPJ, qui avait été sur le radar de la DPJ et finalement remise aux mauvais soins de son père, en était morte. Donc, il y a un autre cas aujourd'hui dans la presse qui nous provient de la DPJ à Grande B, donc encore la DPJ de l'Estrie. Je vais vous lire un extrait de l'article de Gabriel Bélan. Un juge de la Cour du Québec vient d'écorcher la DPJ dans une affaire troublante. Un adolescent de 17 ans, martyrisé par sa mère, a été découvert par hasard par un huissier de Grande B. Il avait pourtant fait l'objet d'une dizaine de signalements à la DPJ quand il a été secouru. L'adolescent de 17 ans semblait provenir d'un camp de concentration, selon un pédiatre. Il avait des os fracturés, ne pouvait plus marcher. Il était incontinent. Je poursuis la lecture de l'article qui était dans la presse ce matin, basé sur un jugement du juge Conrad Chapdelaine. Une pédiatre d'expérience, la docteure Caroline Langlais, parlera devant le tribunal du cas le plus sévère de maltraitance qu'elle a vu dans sa carrière. Le garçon, a-t-elle dit, serait peut-être mort sans l'intervention miraculeuse d'un huissier. En février 2019, ce monsieur-là, le huissier, s'appelle Louis Martin. Il était en entrevue ce matin avec Paul Arcand. On va écouter un extrait de cette entrevue.
Quand on entre dans l'appartement, il y a une noirceur totale. Il n'y a pas de lumière allumée. Les fenêtres sont placardées. Et puis, on va de découverte en découverte. Là, il y a une odeur qui est assez insupportable. On peut même prévoir ou prédire là, que c'est vraiment insalubre, là, sans voir où on va vraiment. Là.
C'était Louis Martin, huissier. C'est cet huissier-là qui a sonné l'alerte au sujet de cet enfant maltraité. C'était à la une de la presse aujourd'hui. On va en parler avec Jade Bourdage, qui est professeure à l'École de travail social de l'UQAM. Elle a témoigné à la commission Laurent sur la DPJ il y a exactement un an, en novembre 2019. La professeure Bourdage a publié des réflexions et des études sur la DPJ et elle est elle-même une ancienne enfant de la DPJ. Professeure Bourdage, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, là, quand vous avez lu cet article-là à la une de la presse, dans quel état vous étiez quand vous avez fini la lecture?
Je dirais même pas dans le même état qu'à chaque fois que je reçois une nouvelle comme celle-là de la DPJ, parce que ce cas-là est absolument horrifiant. C'est digne d'un film d'horreur, c'est digne des téléséries que l'on voit quotidiennement sur Netflix sur des cas vraiment gravissimes de violence physique perpétuée sur des enfants. C'est vraiment, j'ai lu le jugement aussi dans la matinée aujourd'hui, qui est un jugement d'un juge de cour criminelle. Hein. C'est pas un jugement de la Chambre de la jeunesse, donc c'est important de le spécifier. C'était le jugement de la mère qui a écopé d'une peine de prison de 8 ans, tellement les gestes sont gravissimes. Ce jugement-là, lorsqu'on le lit, on ne peut pas s'expliquer en quoi une DPJ, qui est une institution publique qui a pour principal mandat de protéger notamment les enfants de risque de compromission, ait pu non seulement ne pas retenir les signalements au moment où ils ont été faits, mais fermer le dossier également.
OK. Vous faites des recherches, professeur Bourdage, sur le travail social, sur l'intervention en enfance en difficulté. La DPJ de l'Estrie. C'est la DPJ où il y a eu la fameuse petite fille de Grande B. Là, on a un autre cas qui défie l'entendement. C'est encore la DPJ de l'Estrie. Dans le milieu des chercheurs là, qui s'intéressent à la DPJ au Québec, est-ce que sur vos radars, il y a un point qui est plus gros quand ça touche la DPJ de l'Estrie?
Bien, c'est évident que la question de la DPJ de l'Estrie est une question extrêmement épineuse qui a attiré l'attention de nombreux chercheurs puis de nombreuses organisations aussi ou d'organismes communautaires qui s'intéressent à ces questions-là dans cette région-là. C'est une région où lorsque des événements comme ceux-là arrivent, et ce n'est pas la seule région où ça arrive, mais ça nous prend immédiatement par surprise et ça frappe en quelque sorte beaucoup plus l'imaginaire québécois parce que l'Estrie est considérée comme une région que l'on dirait plus riche ou du moins qui n'a pas autant de pauvreté que dans d'autres régions du Québec ou d'autres misères. Donc, c'est évident que ça nous frappe immédiatement et ces cas-là vont attirer notre attention beaucoup plus spécifiquement. Mais la DPJ de l'Estrie, comme d'autres DPJ dans d'autres régions du Québec ont souvent attiré l'attention. Et là, sur des cas comme celui-là, l'attention des médias particulièrement, mais je pense seulement au conflit de légitimité avec les juges. Les juges, lorsqu'ils rendent des décisions au niveau de la Chambre de la jeunesse, et lorsqu'ils ont à se pencher, par exemple, sur des cas d'abus physiques ou d'abus à caractère sexuel dans des cas de signalement pour des enfants, eh bien, il n'est pas rare que les juges émettent certains propos à l'égard que la DPJ n'aurait pas particulièrement fait son travail ou n'aurait pas retenu les signalements à temps. Et on est en droit de se questionner parce que dans un cas comme celui qu'on voit aujourd'hui, et on en entend parler aujourd'hui, non pas parce que l'information nous vient de la DPJ, mais parce qu'une information nous vient de la Cour criminelle qui vient de condamner la mère à 8 ans de prison. Donc, ces faits-là sont importants. Et lorsque notre attention est attirée sur des cas comme celui-là, ben on est en droit de se demander, en fait, si la DPJ, les DPJ du Québec ne retiennent pas des cas comme celui-là, mais quel cas et quel signalement est-ce qu'ils retiennent? Parce que c'est quand même, j'invite vos auditeurs à regarder l'article dans la presse aujourd'hui, mais aussi à consulter le jugement. Je veux dire, c'est une histoire qui, vous l'avez dit, dépasse l'entendement.
Et pour la chronologie, professeur Bourdage, parce qu'il y a sans doute des gens qui se posent la question, la petite de Granby, c'est au printemps 2019, là, si la mémoire me sert bien, là, quelque part au mois de mai. Et dans le cas de ce jeune homme de 17 ans martyrisé par sa mère depuis des années, c'est février 2019. Donc, ça arrive avant la mise en tutelle, avant la saga de la petite de Granby. Mais dites-moi, quand vous avez lu ça là, comme chercheuse, OK, puis je vous dis même pas là, comme ancienne enfant de la DPJ, Mme Bourdage, là, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce cas-là en particulier?
Bien, écoutez, c'est la chronologie, évidemment, qui est impressionnante parce que, vous le dites, bon, la jeune fille de Granby qui a notamment cette histoire-là déclenché l'annonce de la mise sur pied de la commission Laurent, de la commission d'enquête sur les droits des enfants, c'est en mai 2019 que les médias se saisissent de cette histoire-là parce qu'il y a mort d'une petite fille, bien sûr, mais le cas de cette jeune fille-là était dans les dossiers de la DPJ depuis plus de 6 ans lorsque ces événements-là ont eu lieu. Mmh. Et là, c'est la même chose dans le cas qui nous occupe. La temporalité, si on veut, des procès et de l'accès à l'information que le public québécois peut avoir, on est au fait de cette situation-là aujourd'hui, mais cette famille-là, il y avait eu des signalements depuis 2008. Donc, ça fait 12 ans. Donc, lorsqu'on dit que la DPJ de l'Estrie est un peu sous observation médiatique ou attire l'attention depuis 2019, il ne faudrait pas oublier que toutes ces histoires-là remontent à il y a bien plus longtemps. Donc, 2008, dans le cas du jeune garçon, qui, je le signale, quand il a été retrouvé, alors que la DPJ avait fermé le dossier, il a dû être hospitalisé 2 mois, et il a dû être en réhabilitation pendant plusieurs mois. Et on peut très bien comprendre que cet enfant-là ne se remettra pas de traumas comme ceux-là en quelques mois ou même quelques années.
Écoutez, on sort d'une saga qui concernait 15 chevreuils à Longueuil. Puis là, je ne veux pas faire de comparaison parce que toutes les comparaisons sont boiteuses, mais il y a eu une levée de boucliers organisée pour ces animaux-là, pour ces cervidés. Je regarde ce qui se passe à la DPJ. Et encore là, je le précise, là, je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, mais je trouve qu'on est pas mal calme face à ces enfants-là qui sont martyrisés et qui étaient sur le radar de la DPJ.
Écoutez, ça a été ma première réflexion ce matin. Me dire que nous sommes beaucoup trop calmes devant cette question-là. On manque d'audace pour s'interroger. C'est une institution publique. Elle fait partie de nos institutions du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est une institution qui est régie par une loi d'exception qui fait en sorte qu'elle est protégée également de la critique. Elle est protégée. Il est très difficile, dans l'état actuel du corpus législatif, de rendre cette institution imputable. Et c'est ça la difficulté actuellement que nous avons devant des cas comme celui-là. Et c'est des cas, malheureusement, qui attirent l'attention publique pendant quelques jours, quelques mois. Mmh. Et après, c'est le silence radio, c'est le mutisme politique le plus total. Mais je souhaiterais rappeler aux auditeurs que pendant que nous passons des années dans notre mutisme politique à l'égard de cette institution publique, il y a des milliers d'enfants sous sa tutelle qui ne reçoivent parfois pas les soins et le support dont ils ont besoin, alors qu'on sait que la DPJ est très intrusive dans d'autres familles. Des familles qui ne propèrent pas des abus physiques ou des violences sexuelles à leurs enfants, mais qui sont dans des situations de précarité, par exemple. La DPJ sera très intrusive dans ces familles-là, mais ne retient pas des cas comme celui qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Je veux dire, nous avons collectivement énormément de questions à nous poser. Et par le fait aussi qu'il n'y a pas de levée de bouclier sur ces enjeux-là de la jeunesse au Québec.
Professeur Bourdage, vous avez parlé, vous souhaitez voir de l'audace face à la DPJ. Mm-hmm. Est-ce que la DPJ donne trop de chance aux parents qui sont clairement inaptes à avoir des enfants?
Écoutez, je dirais pas trop de chance à des parents qui seraient inaptes. Je dirais qu'elle frôle le harcèlement avec d'autres familles qui pourraient tout à fait bien s'occuper de leurs enfants s'ils étaient enrichis par des politiques sociales, par exemple, s'ils étaient accompagnés par des organismes de première ligne au lieu d'être encadrés par une loi d'exception comme celle-là. Mmh. Cette loi d'exception-là, elle a été pensée au Québec pour s'occuper des cas graves. Et en ce moment, lorsqu'on regarde les rapports annuels des DPJ au Québec, ce n'est pas les cas les plus graves qui occupent le plus clair de son temps. Et avec des cas comme celui qu'on apprend aujourd'hui dans l'espace public, on peut se demander comment se fait-il que des signalements comme ceux-là ne sont pas retenus. Et c'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire qu'on a clairement des situations de négligence au niveau de la DPJ par rapport à ces dossiers-là et on n'est pas capable de les tenir responsables à l'heure actuelle au Québec. Et je prends un exemple, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Gabriel Fernandez qui a secoué l'État de Californie il y a quelques années. Ben, dernièrement, il y a des travailleurs qui ont été tenus responsables aux criminels pour ne pas avoir intervenu dans une situation de négligence aussi gravissime. Et l'histoire de Gabriel Fernandez, qui malheureusement s'est soldée par un drame familial, cette histoire-là ressemble étrangement à celle qu'on a sous les yeux ici même au Québec, dans une région que l'on considère prospère et magnifique et qu'on s'imagine étant sans problèmes sociaux. Donc, c'est très préoccupant. Puis, oui, je nous trouve calme au Québec devant cette question-là et je trouve ça extrêmement désolant.
Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci.